Bonne fête de Pâques à tous nos amis orthodoxes, particulièrement à vous, Justina, Christ est ressuscité.
En vérité, il est ressuscité. Christos anestiek nekron thanato, thanaton patisas, ketis entis mnimasizoin, haris amenos. C'était le petit repère de Pâques. Voilà.
Super. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat, émission de l'association Marie de Nazareth. Je salue tous ceux qui découvrent l'émission, espérant que vous deviendrez à votre tour des fidèles du dimanche. Je vous invite à écouter et à vous rendre sur notre site mariedenazareth.com. Où vous trouverez toutes les informations concernant notre actualité. Justina, notre théologienne préférée, nous fera aujourd'hui...
L'apologie de la crucifixion.
Ça, c'est terrible. Et cette semaine, je serai très heureuse d'accueillir un auditeur, Raymond Magnan. Bonjour Raymond.
Bonjour France.
Qui est auteur et qui a eu l'immense bonne idée de nous écrire pour nous proposer d'intervenir dans l'émission. Et merci Raymond d'avoir pris cette initiative. Nous parlerons ensemble du message de la Vierge Marie à Lourdes.
Et moi, je vous remercie, hein, chère France, de m'avoir accueilli dans votre si belle émission qui respire la lumière et la transmet si bien.
Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Justina, parlons de cette fête que je trouve étonnante. Ce thème que je trouve étonnant, apologie de la crucifixion.
Oui, bon, vous êtes en période pascale, moi je fête Pâques,
oui.
Donc j'aimerais rester aujourd'hui sur le sujet de Pâques, mais en étant moins festive et solennelle, comme le 31 mars, mais revenir sur l'apologie. Bien sûr, je ne chercherai pas à prouver aux athées que le Christ est ressuscité, mais j'aimerais aborder un point qui me semble important. Il concerne une idée... qui est connu du grand public par le biais d'une religion qui a 1400 ans à peu près, qui reconnaît Jésus comme un prophète, mais pas comme un dieu, et dans 90% des cas, nie la crucifixion même. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors ici n'est pas la question de vous faire un comparatif entre nous chrétiens et eux et dire que nous sommes parfaits, mais je veux juste prendre la défense de l'idée de la crucifixion, car pour nous c'est un pas vers la résurrection, un pas pour notre salut, et ça c'est le socle même de notre foi. Si on ne meurt pas, après tout, on ne ressuscite pas. Et qu'est-ce que je fais si on vient vers moi en me disant que je me suis trompée sur toute la ligne? Non, je ne dis pas à parté, je ne veux pas vous écouter, je fais des recherches de mon côté. Donc, qu'est-ce qu'on me dit, en moi en tant que chrétienne, quand on me dit que Jésus, ou plutôt comme ils disent, Issa, n'a pas été crucifié? Je vous donne la citation du Coran, c'est la sourate 4, versets 157-158. Or, ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais il y a eu un faux semblant. Selon une autre traduction, l'affaire leur avait été rendue confuse, et ceux qui ont divergé à son sujet sont dans une conjoncture par rapport à cela. Ils n'ont de cela pas de preuve, mais suivent ce qui n'est confère que par conjoncture. Et certainement, ils n'ont pas réussi à le faire tuer, mais Dieu l'a élevé à lui, car il est puissant et sage. La tradition sunnite, qui est majoritaire, donne plusieurs pistes pour désigner qui et comment aurait pu être ce fameux faux semblant. Alors, une des suppositions est proposée par beaucoup de savants, notamment un savant assez récent, Nadoui, qui reprend les tafsirs. Et pour lui, ce serait par exemple Simon de Cyrène, qui aurait été crucifié par erreur et sous un effet d'illusion. Je cite, « Le lieu de l'exécution était éloigné du palais et des grands bâtiments. » Or, le Messie avait été rudement éprouvé par les derniers événements et il était épuisé. Les gardes du tribunal, les Romains, ordonnèrent donc à un autre homme de porter la barre pour que l'on puisse presser le pas. Ces gardes devaient, une fois arrivés près du lieu de supplice, confier le condamné à d'autres gardes romains, ceux du lieu d'exécution, qui devaient s'occuper de la suite de l'affaire. Les gardes du lieu d'exécution virent donc quelques hommes avancer sous l'escorte d'autres gardes et virent l'un d'entre eux, un Israélite portait la barre. Il prit la relève des gardes du tribunal en prenant l'affaire en main. Ils continuèrent leur marche et gravirent la colline où étaient érigés les poteaux. Et là, ils furent dans l'illusion. Ils saisirent celui qui portait la barre, ils le clouèrent les poignets sur celle-là et la fixeraient sur le poteau. Celui qui portait la barre cria, hurla qu'il était innocent et que ce n'était pas lui qu'il fallait exécuter. Mais pourquoi les gardes changés de l'exécution en tiendraient-ils compte? Oui. Assez souvent, le condamné à mort crie qu'il est innocent et que c'est l'autre le coupable. Les autres gardes, ainsi que ceux qui avaient voulu la condamnation à mort, sont restés à distance, ne rendirent pas compte qu'un autre avait été crucifié à la place de Jésus. Donc, d'après Cassas an-Nabim, c'est l'histoire des prophètes par Ibn Kathir, un savant musulman du XIVe siècle, très apprécié des salafistes aujourd'hui d'ailleurs. Il y en a bien d'autres aussi idées sur le personnage du faux-semblant. On a aussi entendu parler du faux-semblant Judas. Bon, j'ai même entendu de vive voix, mais je ne suis pas certaine que c'est une opinion réellement fondée dans la tradition musulmane, que l'erreur était due à la tombée de la nuit et que les gardes romains se sont trompés à cause de l'absence de lumière. Là, je ne critique pas les savants parce que je n'ai pas trouvé cette information de chez eux. Mais je tiens à préciser que ça, c'est totalement impossible d'exécuter qui que ce soit en Terre Sainte à l'époque.
De nuit
ou à la tombée de la nuit, car cela allait provoquer des troubles. La loi juive interdit de laisser une dépouille à la surface de la terre promise, car un cadavre souille la terre, selon la loi, et les Romains ne prendraient jamais le risque inutile de provoquer la foule de zélotes pour une affaire d'exécution.
Oui.
Mais revenons-en à Simon de Cyrène. C'est une piste intéressante, tant qu'on ne dit pas que l'erreur est due au soleil couché. Est-ce que nous avons une idée semblable quelque part dans la littérature intérieure au Coran et au texte de la Sunna? Que je vous rappelle, le Coran date au mieux du 7e siècle après Jésus-Christ. Eh bien oui. Dans le livre de saint Irénée de Lyon, Contre les hérésies, qui fut évêque au 2e siècle après Jésus-Christ, donc bien avant l'arrivée de l'islam, saint Irénée nous parle de l'hérésie de Basilide, où entre autres, nous voyons que Basilide enseignait la non-crucifixion de Jésus. Je cite « Par conséquent, il, Jésus, ne souffrit pas lui-même la passion, mais un certain Simon de Cyrène fut réquisitionné et porta sa croix à sa place. Et ce Simon qui, par ignorance et erreur, fut crucifié après avoir été métamorphosé par lui, c'est-à-dire par le Christ, qu'on le prit pour Jésus, quant à Jésus lui-même, il a pris les traits de Simon et, se tenant là, se moqua des archontes. Comme on peut constater, le concept n'est pas nouveau. Quand je montre cet exemple à des interlocuteurs qui défendent la non-crucifixion, en général, ils disent « Mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a eu des vrais chrétiens parfaitement monothéistes qui croyaient comme nous, mais vous les avez traités d'hérétiques et rejetés. » Le hic est que si vous lisez entièrement l'enseignement de Basilide transmis par saint Irénée, vous verrez par vous-même que c'est du gnosticisme et en plus, cela n'a rien de monothéiste. On le voit même dans le passage que je viens de citer, où à la fin, Jésus se moque de certains archontes. Archontes, c'est les principautés, les commandements, les chefs. Donc ce sont des entités divines opposées à lui. Et le système de Basilide est polythéiste. Et Jésus, en étant Dieu, ne vient que pour régler un problème de guéguerre céleste sur terre. Autrement dit, si l'Église a rejeté Basilide, c'est non pas seulement qu'il professait un autre évangile, comme le dirait l'apôtre Jean ou l'apôtre Paul, pour qui la bonne nouvelle n'est pas un livre, mais la résurrection du Christ, mais en plus pour un parfait polythéisme de Basilide. D'ailleurs, nos interlocuteurs qui soutiennent l'idée de la non-crucifixion ont la notion quand même de l'évangile, en l'appelant « Injil », qui n'est autre que le mot grec « évangile déformé ». Ils pensent que c'est un livre transmis par Jésus lui-même. Mais nous savons très bien que Jésus n'a jamais rien écrit et il n'était pas venu pour nous donner des textes. L'évangile signifie la bonne nouvelle et la bonté de cette nouvelle était toujours perçue par le monde chrétien comme la résurrection du Christ. S'il n'est ni mort ni ressuscité, excusez-moi, la bonne nouvelle c'est quoi ? Il n'y aura pas de morale dans cette histoire, Nous sommes tous libres de croire ou ne pas croire, mais à titre personnel, je me méfierai toujours des personnes qui arrivent des centaines d'années après les faits pour m'apporter des précisions à caractère dogmatique, enfin, sauf s'il s'agit des archéologues.
Bien sûr.
Mais leur démarche n'est pas religieuse, donc je leur pardonne. Mais je m'adresse ici surtout aux chrétiens. Si on vous parle de Jésus, et même en bien, ne vous détendez pas. La personne qui parle peut très bien représenter une pensée New Age, qui n'est rien d'autre que du gnosticisme moderne, et plutôt, je dirais, castré. Elle peut être musulmane, elle pourrait être témoin de Jéhovah, ce qui revient à un arianisme un peu judaïsant qui nous vient du XIXe siècle. Ou peut-être parlons-nous d'un Jésus fictif des livres de fiction comme Da Vinci Code de Dan Brown, ou je préfère, franchement, ça c'est mon livre de chevet, Maître et Marguerite de Bulgakov.
Que vous nous avez déjà cité.
Oui, indirectement, plus d'une fois. Mais Yeshua HaNotzri de Bulgakov n'est pas le Jésus-Christ biblique. Et normalement, toute personne qui a un minimum de culture le sait. Dans tous les cas, la prudence et l'esprit critique doivent être au rendez-vous.
Merci Justina. Écoutons à présent une merveille, l'ascension magnifique du chœur féminin du monastère de Saint-Guégard, situé en Arménie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Très beau cœur, tout en finesse, de quoi préparer nos âmes pour vous écouter, Raymond. Merci
très
d'avoir
bien.
Pris l'initiative, comme je le disais, de nous contacter pour que cette émission puisse se faire. Alors, vous êtes auteur de très beaux ouvrages.
Merci.
Vous en avez offert. Merci beaucoup.
Merci.
Que j'ai lu avec attention, puisque nous en avons discuté ensemble. Je
oui.
dirais même de poèmes qui ne disent pas leur nom. Vous avez
oui.
connu François Mauriac, qui a prophétisé.
Absolument.
Est-ce que je peux dire ça? Que
oui,
votre vie
oui,
serait
oui.
difficile. Et je crois qu'il a perçu que vous seriez auteur, que vous alliez écrire, voilà. n'est-ce pas?
Voilà, il a, en quelque sorte, il m'a mis sur le chemin de l'écriture, oui.
Oui, c'est ça. Oui. Ces rencontres avec lui et vos lectures vous ont donc incité à écrire, comme Marcel Arlan, hein, au concours de 1928.
Voilà.
Vous avez une sensibilité classique par votre style, avec un ton.
Oui.
Et une voix.
Et une voix.
Tout à fait. Pouvez-vous me dire ce que vous a écrit, ou de mémoire peut-être, Julien Gracq, qui a été très fidèle dans votre relation?
Ah oui, oui, oui. Il me disait que je ne m'apesantissais pas beaucoup sur les choses, mais que je les disais en vérité et en profondeur.
Oui.
Voilà.
Alors aujourd'hui, je vais beaucoup me taire, Raymond, pour vous écouter.
Oh, merci, mais je tiens toujours vraiment à vous remercier pour votre accueil et votre lecture, parce que vous m'avez lu avec une telle sensibilité et une telle science quand même que ça m'a beaucoup touché quand même. Hein. Voilà.
Bah écoutez, je crois que c'était tellement merveilleusement bien écrit que j'ai compris les sentiments que vous vouliez passer à travers vos livres. Alors, parlez-nous du message de Lourdes que vous nommez comme une simple et miraculeuse vérité.
C'est ça, une simple et miraculeuse vérité. On peut commencer par « Dieu traverse l'épaisseur du monde pour venir à nous », disait Simone Veil. Mm-hmm. Et cette simple et miraculeuse vérité, elle est incarnée tout entière dans le message de Bernadette.
Oui.
Alors, qui est-elle, cette petite aveugle qui sait que la lumière existe? Pour elle, le miracle n'a pas de fin. Pour nous, en nous, l'attente d'un miracle commence. Si l'on tentait d'exprimer ce qui pourrait constituer la véritable sainteté de Bernadette, on pourrait dire, en simplifiant beaucoup, que c'était sa fidélité, mais aussi et surtout la nature de cette fidélité, son éclat, obstinée, patiente et presque douloureuse. Jamais elle n'a voulu convaincre, jamais elle n'a voulu forcer à croire. Tout au contraire, elle souhaitait qu'on la laisse en paix, et à aucun moment elle n'a voulu être celle qui sait. Ce qu'on appelle sa vision, mais il faudrait dire sa rencontre, n'est pas une abstraction, c'est une réalité sensible, et serait-on tenté de dire concrète. Rien ni personne ne pourront lui rendre cette immense joie perdue. Pourtant, elle découvre les deux bois vivants de sa croix, la souffrance et la solitude.
Alors là, je vous arrête.
Voilà.
Cette phrase est magnifique.
Merci.
Elle découvre les deux bois vivants de sa croix, la souffrance
et
la solitude.
C'est exact. Oui. Parce que en ce destin, il faut chercher l'extraordinaire. C'est quelque chose. C'est un ordinaire transfiguré en réalité. Mmh. Et transfiguré au prix de beaucoup d'amour. Mais un amour le plus difficile, pas l'amour fou, ébloui, pas l'amour d'un instant, mais l'autre amour, celui dont on ne parle pas, celui dont il n'y a rien à dire, l'amour qui se recueille, qui veut durer, qui prend racine en un être, comme si le monde ne s'abolissait que pour se réunir en un seul être. Alors, c'est ensuite, évidemment, tout au long de sa vie, elle a continué, elle a été rejetée au rivage. Il a fallu qu'elle fasse front à tellement de gens hostiles, une hostilité à laquelle elle faisait face avec beaucoup de courage. Ouais. Et ce fut les lentes années et le poids de chaque chose, leur opacité, comme un mur entre elle-même et elle-même. Voilà. Alors, c'est le long itinéraire de Bernadette de Bartrès, la petite gardienne de troupeau, jusqu'à Mère Marie-Bernard de Nevers.
Oui.
Voilà. Où elle est devenue Sainte Bernadette.
Oui.
Et où elle a vraiment offert son âme à Jésus. Voilà. Elle a dit « Je suis broyée comme un grain de blé. Voilà. Toute seule, comme ceux qui ne voient rien et qui ne savent pas. Mais il a fallu cette espérance désespérée. Et qu'est-ce qu'il et disons que elle a tellement généré de de puissance dans son offrande, qu'elle est à elle seule, toutes ces gens, toutes ces foules,
oui,
qui viendraient, qui ne cesseraient de venir, des gens qui sont poussés par une force inconnue, insurmontable, des foules qui sortent de la foule comme l'eau sort de la terre, sans fin,
ouais,
sans raison et sans fin. Voilà. Et on voit cette colonne serrée de la procession qui viendra s'écraser contre le rocher. Chacun pour soi poursuivra sa prière muette. Ouais. Ceci le visage et les mains tendues vers le filet d'eau de la source. Cela encore serrant le cierge. Cela encore pressant contre leurs lèvres une pierre noircie et usée. Et cela encore le visage au creux des mains comme s'il pleurait. On a beau dire « ici quelqu'un est venu, ici quelqu'un a vu quelqu'un, ici nulle part ailleurs, il n'y a plus besoin de voir et de comprendre, il suffit de savoir. Il y a un visage devant un autre visage, et toute la nuit du monde refermé ne pourra en effacer la clarté.
Oui. »
Et nous aussi, qui n'avons pas de grandes infirmités visibles, ni d'évidentes plaies, nous sommes pareils aux foules qui sont là, comme une épiphanie des corps et des âmes. Nous aussi, nous avons à guérir, à espérer. Lourdes est là pour nous le rappeler, et pour nous rappeler surtout que notre foi n'est rien d'autre qu'une imposture si nous nous croyons la séparer de la vie.
Bien sûr.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà.
C'est magnifique.
Alors,
merci, France. Vous aimez énormément Alain Fournier.
Tout à fait.
Vous vouliez absolument que nous l'évoquions.
Voilà. Je voudrais l'évoquer parce qu'il a été lui aussi visité par la Vierge Marie.
Oui.
Il a eu l'appel de cette voix merveilleuse.
Oui.
Alors, au début, c'était un appel qui s'est précisé peu à peu.
Oui.
Impérieux, inexorable, un cri jailli de la chair, un cri monté des lèvres et des blessures. Alors c'est d'abord des amitiés,
oui,
celle de Marguerite Audoux, celle de Jacques Rivière, et surtout la lecture des foules de Lourdes de Huysmans. Et puis il y a eu ce désir d'aller jusqu'au creux humide du rocher, de le vivre lui-même jusqu'à cette pierre aride que la lumière vivante a touchée, là où un peu d'eau gicle dans des gobelets, là où il n'y a rien qu'une confiance avide. Alors il écrit, et puis par tous les trains du monde, en se racontant doucement leurs espoirs, ils sont venus. Ils sont massés là, et ils attendent, ils supplient. Et c'est un effort de foi si désespéré, un tel désir, que presque ici ils la touchent, qu'ils vont la toucher, qu'un miracle va faire éclater sa présence. Est-ce la grâce ? Non, c'est une brûlure qui n'éclaire pas. Il écrit encore « Le pays que vous avez découvert dans le secret de votre cœur, je l'ai cherché longtemps et vainement sur la terre.
Ouais. »
Alors il dit « La Vierge, pour lui, c'est une pureté incandescente, c'est une neige de feu, mais en même temps, c'est le corps de la femme où germera la chair de la vérité. » Et il a écrit ce texte que je trouve vraiment magnifique et qui est le féminin céleste, le corps,
oui,
de la femme.
Oui. Alors nous
si
terminerons.
Vous me...
Alors peut-être. Il nous reste peu de temps.
Ah, mais...
Je crois que nous terminerons peut-être avec le corps céleste. Pourquoi pas ?
Oui, oui.
Parce que c'est si beau.
Oui. Bon, très bien. Alors puis-je dire
bien
sûr. Bon, montre-toi, Bernadette. Non. Ne nous explique pas, fais-nous voir, toucher des yeux, guéris-nous d'être aveugles et d'aimer à l'être, guéris-moi, guéris-nous de trop savoir, de trop voir, de trop comprendre. Aveuglés par le jour, comme tant d'autres avant eux l'ont été par leur nuit, est-ce un tremblement de cierge qui se reflète au bord de tes lèvres ?
Qu'est-ce que c'est beau cette phrase ?
Merci. Une étoile pique le ciel, tu la connais, chaque fois c'est elle la première, mais tu as beaucoup regardé à t'en brûler les yeux. Elle est toujours là sans avoir besoin d'apparaître, toujours là. Le froid du jour te coupe les joues de son couteau de verre. Petite âme frileuse, tu t'habilles de ton corps étonné de vivre. Tu en secoues le reste de sommeil comme la poussière d'un habit. Le miracle visible est fini, mais il dépend de nous, désormais, d'accomplir un autre miracle, invisiblement, merveilleusement. Alors nous serons au cœur de ce monde incompréhensible où les enfants meurent et les malades veillent, ce monde entre Gethsémani et Golgotha, ce monde informe et sans miracle, et qui pourtant est Dieu.
Merci beaucoup. C'est difficile de prendre la suite. Je n'ai pas précisé que bientôt vous sortirez un livre, une biographie de Jacques Rivière.
Voilà, bientôt une biographie de Jacques Rivière, Itinéraire d'une conversion,
oui.
qui va paraître début mai,
oui.
et qui sera publié chez l'Harmattan.
Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Merci infiniment. Est-ce que vous reviendrez nous parler de Jacques Rivière ?
Oh, je voudrais avec grand plaisir parler de Jacques Rivière.
Nous prendrons rendez-vous donc. Merci infiniment,
merci
Raymond.
Merci beaucoup, France. Merci.
Bonne semaine, chers auditeurs, et à bientôt.